sur les chemins de la création. Une émission proposée par Clémentine Savine.
Je crois qu'un artiste, c'est quelqu'un qui a mal aux autres. Il y a ceux qui n'apportent rien du tout, il y a ceux qui apportent seulement leur métier, et puis il y a ceux qui apportent leur propre univers.
On exprime les choses que les gens auraient du mal à exprimer de cette façon aussi intense.
Comment ils ont fait pour arriver à faire ça?
On crée, on transforme, on modifie, on jette tout, on recommence.
Ça, c'est la spécialité des gauchos bobos. Ils font de la merde et ils te disent que c'est de l'art.
C'est ça, être artiste.
Ça met une pression assez conséquente.
C'est quelqu'un qui sort quelque chose à partir de rien.
Bonjour, c'est Clémentine. Bienvenue sur les chemins de la création. Aujourd'hui, nous recevons deux artistes dans les studios de Divergence pour parler de ce sujet merveilleux qui nous rassemble, la création. Elle est comédienne au théâtre, au cinéma. Elle écrit et réalise. Et il est poète et met en musique et en images ses textes et son chemin de vie. Voici Louise Hervé et Kurmi Yanke. Bonjour Louise et Kurmi.
Bonjour.
Bonjour.
Comment ça va?
Eh bien, ça va très bien, merci beaucoup.
Ça va, dans un espace particulier, avec trois micros qui nous séparent et sphéroïdes, quoi. Comme si on était chacun avec notre monde.
Yes, ensemble et chacun dans sa sphère en même temps. Alors, on va parler création ensemble. Et j'aimerais savoir, pour vous, ça commence quand, la création dans votre vie?
Oula. Ben, ça commence à partir du moment où on décide de se lancer dedans, je pense. Et de décider de faire ça de sa vie, quoi.
Et du coup, à quel moment, toi, Louise, tu te lances dedans?
Je dirais après mon bac. Tout de suite après mon bac, donc vers 19-20 ans, je pense, quand je commence à faire mes premières écoles de théâtre.
Yes. Et pour toi, Kurmi?
Je pense qu'il y a différents types de création. La création passive, à partir du moment où on apparaît au monde, on commence à se créer soi-même, nos organes, dans le ventre de notre mère. Donc dans une création passive, et en effet, je suis d'accord que c'est une volonté qui fait qu'on rentre dans une autre forme de création, quoi. La création de soi et moi, ça a commencé il y a 5 ans. Avant, j'étais passif, créateur passif de mon être, quoi. Et ça suffit pas.
Et tu sens qu'il y a une bascule, du coup, il y a 5 ans?
Oui. Je le sens pas, j'ai vécu vraiment cette bascule intérieure, quoi. C'est des prises de conscience. Ça part d'une prise de conscience, en fait. La conscience que, justement, là, on est à Radio Divergence. J'avais divergé pendant toutes ces années parce que j'ai 44 ans, j'en avais 39. Donc, j'avais déjà beaucoup cheminé dans la ville. Et j'avais divergé avec une grande partie de moi-même. Et la création, c'est ça, c'est peut-être se mettre en mouvement vers soi-même.
Yes. Et est-ce qu'en ce moment, vous créez? Si vous créez quelque chose, qu'est-ce que vous créez en ce moment? Dans vos parcours respectifs?
Ouais, moi bon, en ce moment, je suis en train de faire un court-métrage pour la cérémonie des renards de l'école du plateau à Montpellier.
Yes.
Chaque année, il y a un concours de court-métrage. Et cette année, c'est un court-métrage qui s'appelle Avec ou sans, que je fais avec un collectif qui s'appelle Blink. Et je suis en train d'écrire aussi un futur projet. Donc voilà, je suis en processus de création, si on peut dire ça comme ça.
Donc là, tu es plutôt sur l'écriture?
Il y en a un, on l'a déjà tourné il y a 2 semaines. Et là, je suis en processus d'écriture, ouais. On adapte aussi une pièce de théâtre de Dario Fo avec des amis. Donc, je fais plusieurs trucs en même temps à côté de l'intermittence.
Ok.
Tu t'éparpilles.
Je m'éparpille beaucoup. Je fais plusieurs choses à la fois, oui.
Ouais, mais moi, c'est un peu ça aussi. Beaucoup de choses en même temps. Là, concrètement, au début du mois d'avril, je vais jouer un spectacle pour la 2e fois. Je l'avais joué à la fin du mois de décembre, au moment du solstice. beaucoup d'improvisation, et là j'essaie de plus le faire rentrer dans quelque chose de plus préparé, quoi. Et c'est comme une sorte de résidence à l'ODEV.
Yes. Et du coup, tu es dans une phase de structuration?
J'entre là, ouais, dans la structuration de ce spectacle. Et après, il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses. Je fais beaucoup de vidéos et avec d'autres personnes, d'autres artistes, j'essaye de faire ça, ouais.
Et comment tu t'y prends pour structurer et aller vers une forme plus aboutie et faire évoluer ta première forme de spectacle?
Mais en fait, au solstice, là, quand j'ai joué ce spectacle que j'avais déjà un peu préparé, qui était structuré autour de poèmes que j'ai écrits, il y a beaucoup de choses qui sont venues dans l'improvisation et que j'ai notées juste après, en prenant conscience de ce que j'avais fait, justement. Je reviens à cette histoire de conscience. Parfois, on agit sans conscience, parfois... C'est dans l'improvisation, mais derrière, si on pose notre regard dessus, là, ça devient aussi un rebond de la création. Donc, je structure là, en rebondissant sur ce que j'ai pu créer en improvisation et en essayant de le formaliser un peu mieux. Et peut-être que ça ne marchera pas, d'ailleurs. Peut-être qu'il vaut mieux rester dans l'impro. Mais moi, j'ai envie de ça parce que j'ai aimé.
Yeah. Et du coup, oui, tu passes par l'expérience au plateau, l'impro. Et tu gardes ou tu jettes ou tu modifies. Et c'est ça qui fait évoluer ta forme, là.
Oui, après, il y a beaucoup d'envie, de petits rêves autour d'une petite création comme un spectacle. On peut venir à imaginer plein de choses, des petites projections d'images, des sons qu'on amène, voilà, des musiques. Mais ça, c'est des chemins qu'on ne suit pas forcément. Enfin, on n'y va pas forcément, mais on y pense. Ça, la structuration aussi. On laisse des choses de côté.
Ouais, carrément. Mais je rebondis sur ce que tu as dit. Je trouve ça vachement bien de bosser avec l'improvisation, justement, parce que c'est le moment présent. Et je me souviens de faire des fois des scènes d'impro avec des amis pour mes projets et d'écrire en fonction de ce qui a été dit dans l'impro et de m'adapter à ça. Donc c'est pas mal du tout, l'improvisation. Mmh. Après, je pense qu'il faut passer par l'écriture, quoi qu'il arrive. Mais l'improvisation peut créer des choses folles, je trouve. On l'a déjà vu au cinéma, d'ailleurs, dans le G Astérix Mission Cléopâtre comme exemple. Mais la scène d'Edouard Baird, c'est justement une scène d'improvisation. Donc il y a un côté magique, en fait, dans l'improvisation, je trouve.
Il y a quelque chose de très organique et très spontané dans l'impro. Moi, je me pose des fois la question de comment trouver une forme de spontanéité aussi sans improviser. Et c'est un exercice qui est particulier, où je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression qu'il faut arriver à s'extraire du mental à un endroit et à plonger. C'est vraiment, je le vois comme un plongeon.
C'est une forme de lâcher prise, en fait, et ça, je trouve que dans tous les arts confondus, il faut qu'il y ait du lâcher prise. Moi qui ai tendance à être vachement dans le contrôle, le lâcher prise, c'est un truc que j'essaye de plus en plus de travailler. Mais ouais, ça passe par là, je pense, le lâcher prise, ouais.
Ouais, on laisse, c'est comme si on était dans un canal, et voilà, il y a des écluses qui retiennent parfois l'eau des émotions, parce que tout part des émotions aussi. Et l'improvisation, c'est ça, c'est on est quelque part en échange avec ce qu'il y a autour de nous, la résonance entre ce qu'il y a autour de nous et en nous, et là c'est le cœur qui parle, quoi. Et cette émotion, si on ouvre le barrage de l'écluse, bah voilà, on part dans quelque chose d'inconnu, mais créateur.
Et du coup, Louise, toi, quand tu écris, tu pars de quoi? Tu te mets dans... Est-ce que tu as un espace déjà particulier où tu aimes travailler, où tu aimes créer? Et comment tu fais, là, concrètement? Tu dois écrire ton film?
Ouais.
Comment ça marche pour toi? Tu te poses à une table ou tu vas
ouais,
dans...
Souvent,
tu vas où?
Alors j'ai un bureau, mais je ne l'utilise pas. Mon bureau, c'est plutôt un truc où je pose des trucs. Moi, souvent, j'aime bien me mettre sur une table, donc soit mon salon, soit sur une terrasse quand je suis dans le sud. Mais quand je suis sur Paris, j'écris sur la table de mon salon. Je mets de la musique souvent en fond. Et après, moi, je suis vachement dans le visuel. J'ai souvent des images de plans, d'émotions. Et j'écris en fonction de ça. Et surtout quand je lis, quand j'écris, lapsus, parce que quand j'écris, je lis à voix haute comment ça va être pour me rendre compte si c'est pas trop justement littéraire et pas que ce soit, faut que ce soit un texte joué et pas un texte lu. Donc c'est important de lire à voix haute ce qu'on écrit pour se rendre compte si ça le fait ou pas, quoi.
Et toi, Kourmi, est-ce que tu as des petites habitudes, des espaces où tu crées plus facilement ou comment ça marche pour toi?
Bah, comme je disais tout à l'heure, je m'éparpille, et donc dans la création, je m'éparpille aussi géographiquement. Ça va être dans différents lieux, en différents endroits. je passe quand même pas mal de temps dans la nature, au contact de la matière naturelle, et elle m'inspire beaucoup. Mais c'est pas forcément dans une démarche active. Je me retrouve dans un endroit et puis là, on se retrouve à créer parce que ça nous inspire. Et après, s'il faut que je me mette quelque part en me disant « je vais créer », là, j'ai beaucoup plus de mal, en fait. Et écrire, j'ai un projet de film aussi, au long cours, que j'essaye d'écrire, qui s'écrit petit à petit par lui-même. Mais me poser et formaliser un écrit, c'est vraiment une difficulté pour moi, quoi. Paradoxalement, parce que j'aime écrire. Mais ouais, j'ai du mal à parler d'une méthode par rapport à ça, parce que j'en ai pas. Et...
C'est plutôt la création qui vient t'attraper, et quand ça t'attrape, tu crées.
Ouais, c'est la facilité de la poésie des mots. C'est un peu, voilà, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Et c'est la poésie des mots. Je dis la poésie des mots parce que pour moi, la poésie, elle englobe toute la création. En grec, ça veut dire, ça se dit poiesis, quoi. C'est... Création et poésie, c'est la même chose.
Complètement.
Carrément. Et j'imagine que tu as toujours un stylo et un papier à portée de main ?
Non. Non, j'utilise les technologies.
tu
parlais tout à l'heure de la sonorité, de la parole.
Ouais.
Et moi, j'aime bien enregistrer tout de suite la sonorité, parce que parfois, l'écrit s'accompagne d'une petite musique. Et cette petite musique, on peut la perdre aussi quand on l'écrit.
C'est vrai.
Donc j'enregistre, moi, beaucoup. J'enregistre beaucoup.
Excuse-moi.
Tu t'enregistres directement en audio sur ton téléphone.
Oui, voilà.
Ouais. Ok.
Ouais, mais c'est rigolo, je fais ça aussi des fois, ouais. Parce qu'en fait, ça dépend aussi comment tu t'exprimes à l'écrit, comment tu t'exprimes à l'oral, c'est différent. Mais j'ai tendance à mieux m'exprimer à l'oral. Mmh. Et après, je me réécoute et je fais, ah ouais, je vais garder ça, ça, non, ça je l'oreille, ça j'enlève, ça je garde.
Mmh. Et le flux de l'improvisation du moment n'est pas gêné par l'acte d'écriture, qui est aussi un acte technique, quoi, beaucoup plus technique que la parole. La parole, c'est un truc qu'on a en nous, qui est très naturel. Enfin, même si initialement, quand on arrive au monde, on ne parle pas. C'est quelque chose qu'on apprend à faire, mais il y a quelque chose de très naturel, là. C'est incroyable, quoi, là. C'est comme les gestes des mains, on ne se rend pas compte de tout ce qu'on fait avec tout ça de manière naturelle. Voilà, donc.
Et comment vous nourrissez votre créativité ? Est-ce que vous avez des tips, des choses qui vous permettent de venir nourrir ça, de trouver de l'inspiration au quotidien, ou de façon plus anecdotique peut-être?
Moi, j'écoute beaucoup de musique et je vais souvent au cinéma aussi, parce que j'adore aller au cinéma. Et je dirais que je me nourris de cette manière-là. Et après, je me nourris aussi beaucoup de mes relations, de mon cercle social, des conversations que j'ai avec mes amis, avec ma famille, avec mon entourage. Donc je dirais que je me nourris de cette manière-là pour créer, quoi.
le chemin de la création, en tout cas tel que moi je le perçois, c'est vraiment, c'est tout le temps, hein. Donc être à l'écoute pour créer, être à l'écoute de ce qui nous arrive, ouais, des gens qui sont autour, du paysage, et se laisser appeler, se laisser happer par un déplacement, quoi. Appeler par même une petite pierre. Moi, je peux récolter une petite pierre, j'en ai quelques-unes ici là, rien que les regarder, et donc mettre en action ces sens, en fait. Je suis quasiment sûr que si je veux je crée à ce moment-là, quoi, en suivant les messages, quoi, qu'il y a autour de nous. Pour moi, c'est des messages, et la création commence là, dans l'écoute du message.
Moi, j'aime particulièrement partir du vivant, de me poser pour écrire. Enfin, ça dépend de qu'est-ce que je vais créer, mais pour écrire, être posée dans un café et voir les flux de gens, des personnages un peu atypiques qui passent, ou d'un coup une couleur, n'importe. J'ai l'impression que partir du vivant, de tout ce qui va être autour, c'est waouh. En fait, il y a... Dans tout, dans chaque chose, il y a une entrée vers la création, quoi. Que ce soit dans une pierre, dans une discussion. Et c'est d'ailleurs de ce postulat que je suis partie pour créer cette émission. parce que je me disais, c'est fou, l'inspiration, elle est partout, la création, elle est partout. Et après, qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce qui est ce phénomène de processus qui amène vers mes... Donc, je te rejoins sur le côté du mouvement, parce qu'il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là en mouvement, quoi.
Mmh. Ouais.
Et est-ce que... pour qui vous créez ? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question ?
Est-ce qu'on crée vraiment pour quelque chose ? pour qui ? C'est-à-dire une personne, une entité, pour soi, pour...
Eh bien, justement...
Ouais, c'est la question, justement.
C'est très large et je pense qu'en fonction des personnes, ça peut être des réponses très différentes, mais...
Ouais, grave. J'avoue, je ne sais pas trop. Je dirais que je crée pour moi, égoïstement, mais aussi pour... Pour peut-être dénoncer des choses, pour... Il y a un côté engagé aussi dans ce que j'écris, je pense, j'espère. Mais ouais, je sais pas si... Je pense que ça part pour moi, pour me libérer de quelque chose aussi. La création, moi, je l'utilise souvent comme ça. Et aussi pour me libérer, enfin, je veux dire, pour extérioriser plein de choses. Donc je pense que c'est pour moi, à la base, en fait, au premier abord.
Oui, ça commence par soi. On crée presque par nécessité. Enfin, moi, je pense que j'ai commencé à créer par nécessité, quoi. Pour aller mieux, en fait. Mais quand tu vas mieux, bah, tu es plus apte à faire en sorte que les autres aussi aillent mieux. Tu commences à rayonner de quelque chose, en fait. Et après, les gens, ils en font ce qu'ils veulent. Mais la création appelle la création. Tu parlais des gens que tu vois dans la rue et qui passent devant toi. Bah, s'ils sont créateurs de quelque chose, tu vois, bah, même parfois malgré eux, bah, ça peut appeler ta création. Et je pense que. Moi, je pensais à ça avant que tu poses la question, parce que j'ai l'impression que ça nous amenait à ça, quoi. Et pour moi, une création réussie, c'est une création qui a peut-être donné envie à quelqu'un d'autre de créer avec, de rebondir avec. Et comme des ricochets, quoi, voilà. On crée une vibration, et si elle se perpétue, même une personne, une seule personne, voilà, c'est... Donc c'est aussi c'est pour soi, ça commence par soi, mais après c'est une ouverture au monde, on crée pour s'ouvrir au monde aussi.
Yes, c'est très, très joliment dit, l'ouverture au monde, parce qu'en fait si on crée seul, juste pour soi, ben c'est chouette, ça peut nous faire du bien sur le moment, mais ça va pas aller plus loin, alors que... Quand on crée, ça amène vers d'autres horizons, des rencontres. Il y a tout un tas de choses qui peuvent se passer. Et ça nous rappelle aussi à quel point on est liés, on est dans une forme d'unité, malgré tous nos contraires, nos différences, nos particularités, etc.
Complètement, complètement. Enfin, je pense que ça passe d'abord par soi, mais effectivement, surtout que je parle en tant que comédienne, et donc on sait pour les autres. Qu'on le fait aussi pour notre public, pour ceux qui nous écoutent. En fait, c'est pour tout le monde.
Ouais.
C'est autant pour soi que pour autrui, quoi.
Et ouais. Et au niveau des influences que vous avez, parce que bon, je sais qu'on est toujours influencé, qu'on a nous-mêmes été réceptifs à plein de formes d'art. Et est-ce que vous avez conscience de vos influences ? Dans votre création ?
Oui. Influence, tu parles de tout ce qui nous a entourés, en fait, depuis qu'on est enfant.
Que ce soit des trucs très personnels ou bien, je ne sais pas, un musicien, par exemple, il va avoir tel type de musique parce qu'il a écouté beaucoup de rock ou voilà. Et en fait, on crée, mais aussi, des fois, on n'invente rien, on s'inspire. Il y a beaucoup d'influences tout le temps, partout autour de nous. Et moi, je sais que personnellement, c'est un truc qui m'a échappé. Quand j'avais créé une mélodie, des paroles en musique, un texte pour une chanson, je m'étais dit, punaise, les premières notes, mais c'est Céline Dion.
Excellent.
Mais c'est juste 2 secondes. Et je m'étais fait avoir, quoi. J'avais pas du tout conscience de ça. Et c'est après que je l'ai conscientisé. Et, et j'ai dit, waouh, c'est fou comme ça. En fait, notre inconscient peut être imprégné. Et du coup, est-ce qu'on peut en être conscient, tu vois ?
En général, c'est quand les autres te font des retours. Ah, tu m'as fait penser à telle personne, etc. Bon, on m'a souvent dit, tu me fais penser à Adèle Exarchopoulos, alors je le prends hyper bien, parce que je l'adore. Mais du coup, ouais, sans s'en rendre compte, en fait, c'est peut-être aussi tout simplement qu'on se ressemble avec ces artistes-là, quoi. Mais après, ouais, moi, j'ai beaucoup d'influence plus dans le cinéma. J'adore Clapiche, Cédric Clapiche, comme réalisateur. J'aime beaucoup Dupieux, j'adore aussi Colin Serrault. Donc peut-être que, ouais, on se nourrit de ça, en fait. De toute façon, c'est de la nourriture pour nous, l'art des autres. Et je pense qu'un artiste est obligé de se nourrir des autres pour créer.
Moi, j'ai l'impression d'avoir vécu une sorte de long blackout par rapport à ça, parce que en même temps que je ne créais pas pendant toutes ces années, où j'étais en train de subir les choses plus que de les inventer, je ne me suis pas du tout cultivé, en fait. J'ai pas lu, j'ai pas regardé beaucoup de films, j'étais au fin fond de la campagne sans internet pendant au moins 7 ans. Et j'utilise cet exemple des 7 ans sans internet et sans accès, même volontaire, à la culture. Donc les influences, je crois que je suis en train de les constituer en ce moment. Je me laisse attirer par les autres artistes. Je vais vers... j'ai essayé de lire des gens qui écrivent de la poésie. Mais je sais que, par contre, au fond de moi, dans la lointaine enfance, il y a des personnes qui m'ont profondément marqué par leur création et que j'en suis imprégné, quoi. Il y a Charlie Chaplin, par exemple, c'est un mec, il y a toujours été là, quoi. Et moi, quand j'étais gamin, j'ai essayé de me trimballer en écartant les jambes, en faisant semblant d'avoir une canne. Et dans ma solitude, un peu, il y avait un truc comme ça qui résonnait en moi. Et ensuite, Prévert, je me souviens que ces poèmes, quand j'étais enfant, c'était des poèmes très enfantins, très lumineux, et dont je suis imprégné aujourd'hui. Ouais. Ouais. Ouais, ce serait peut-être les deux artistes. Après, il y en a d'autres. En enfance, j'étais à l'école pas loin du centre Pompidou, à Paris, et à cette époque-là, il y avait eu une exposition avec un artiste qui s'appelle Tingeli, un mécanicien, quoi. Un mec qui fabrique des sculptures mécanisées qui aujourd'hui sont présentes dans une fontaine qui a été créée par Niki de Saint-Phalle, une artiste plasticienne, qui a créé beaucoup de sculptures colorées, quoi. Et les mécanismes de Tingeli et les couleurs de Niki de Saint-Phalle, elles sont aussi en moi depuis toujours, et je n'en avais pas conscience. C'est justement ces influences inconscientes dont tu parles. On peut aller vers elle, ouais. Et là, ces gens-là m'ont inspiré par leurs couleurs, leurs mouvements, la recherche de mouvement et de bricolage. Le bricolage, les bricoleurs, en fait, ils m'inspirent.
Mm. Yes. Et est-ce que petite dernière question là. Est-ce que vous avez un regard sur votre corps quand vous créez? Est-ce que vous avez rendu compte que votre corps était est-ce qu'il se passe quelque chose dans votre corps, en fait, quand vous créez? Est-ce que ça vibre? Est-ce que vous êtes contracté? Est-ce que... juste d'une manière corporelle?
Moi, ça me calme beaucoup. Ça me calme beaucoup. Et ça m'apaise d'écrire. Et d'ailleurs, je lis un livre hyper intéressant en ce moment qui s'appelle « Écoute ton corps » de Lise Bourdeau. Et on se rend compte qu'on n'écoute pas assez souvent son corps dans la vie de tous les jours. Du coup, par exemple, si t'as mal à la tête, ou au cœur, ou aux jambes, ou quoi, ça veut dire quelque chose en toi. Donc quand je crée... Alors quand je monte sur scène, franchement, je sens plus mon corps, en fait. Il y a une phase un peu d'adrénaline, je dirais, où t'oublies tout. Je suis déjà montée sur scène, j'avais un mal de crâne pas possible. J'ai tout oublié. Je me suis concentrée, en fait, je me suis focus sur mon rôle. Du coup, j'ai oublié la fatigue, j'ai oublié le mal de crâne, etc. Donc il y a un côté d'adrénaline à fond, je trouve, quand on crée. Et en tout cas, je parle pour moi dans le monde du spectacle. Et après, quand il s'agit d'écriture, moi, je sais que ça me libère beaucoup d'écrire et ça me fait du bien. Donc, je dirais que, ouais, voilà. Comme une bonne séance de sport, quoi, finalement. Il y a un truc qui détend, quoi.
Et toi, Courmi, est-ce que tu sens quelque chose de particulier dans ton rapport au corps et quand tu crées?
Oh, que oui, 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 oui. Il se passe énormément de choses. Et c'est d'ailleurs parfois des tensions du corps qui me poussent à créer. Je sens des tensions et je me dis, mais qu'est-ce que j'en fais? C'est vraiment, c'est très particulier, ouais. Et quand j'ai commencé à créer, je pense que la chose la plus importante qui me soit arrivée, c'est dans le cerveau, quoi. En fait, il y a quelque chose qui se passe dans le cerveau qui nous fait du bien, on canalise et puis qui se libère et qui nous... Il y a une, comme ça une sorte de... je parle encore de rebond, mais en fait, quand on crée, on ouvre quelque chose dans notre cerveau, qui est le centre de notre... Je ne sais pas comment dire, c'est un centre décideur, un centre sensitif aussi, parce que tous les sens arrivent au cerveau. L'écoute, le toucher, le goût, tout passe par là, quoi, voilà. Donc, pour moi, ça commence par là. Ça fait du bien au cerveau. Ouais, et après, le cerveau, il diffuse dans le corps les informations et tu peux avoir même, je pense, des zones de ton corps qui se libèrent par l'art. J'en suis persuadé.
Mmh. Ouais, complètement.
C'est très intéressant. Et pour finir, on va faire le petit mot de la fin. Et le petit mot de la fin, c'est juste un seul mot. Si vous deviez donner un seul mot pour représenter votre création, ce serait quoi? Waouh!
Un seul mot.
Ça peut être un autre mot demain, hein, c'est pas figé. Tout est toujours en mouvement.
Mais c'est ça, je trouve que le titre de l'émission est bien trouvé. Moi, je dirais, c'est le chemin.
Chemin pour Kurmi. Yes.
Et moi, je dirais le mouvement.
Mouvement pour Louise.
Ouais.
Mouvement et chemin. On dirait deux noms de personnages. Allez, on va écrire une histoire, mouvement et chemin.
Infini. Perpétuel.
Yes. Bah oui, il y en a plein en fait. Mais,
Et toi, ce serait quoi du coup?
Moi, je pense que ce serait infini. Mm. Ouais. Infini, parce que pour moi, c'est. C'est jamais fini. La création, on peut tellement. Tellement rebondir, même quand tu as une forme pseudo-finie, tu peux toujours la faire évoluer. Toujours dire, ok, ce morceau-là, on l'enlève, en fait, j'ai un nouveau truc, ça va redynamiser. Ah ben, en fait, je vois la chose complètement différemment, puisqu'on est tout le temps en évolution. Donc, l'infini, je trouve qu'il n'y a que dans l'artistique qu'on peut toucher ça. Enfin, c'est vraiment moi, pour ça que ça me tient hyper à cœur et que j'aime ça.
Ouais.
Eh bien, je vous remercie, Louise et Kurmi. Et je remercie aussi Robin Layou à la réalisation.
Merci beaucoup.
Et c'était un très bon moment avec vous. Et on se retrouve très vite sur les chemins de la création. À tout bientôt. Sur les chemins de la création, une émission proposée par Clémentine Savine.
Je crois qu'un artiste, c'est quelqu'un qui a mal aux autres. Il y a ceux qui n'apportent rien du tout. Il y a ceux qui apportent seulement leur métier. Et puis, il y a ceux qui apportent leur propre univers.
On exprime les choses que les gens auraient du mal à exprimer de cette façon aussi intense.
Comment ils ont fait pour arriver à faire ça?
On crée, on transforme, on modifie, on jette tout, on recommence.
Ça, c'est la spécialité des gauchos bobos. Ils font de la merde et ils te disent que c'est de l'art.
C'est ça, être artiste. Ça met une pression assez conséquente.
C'est quelqu'un qui sort quelque chose à partir de rien.